France Culture. Le journal, Jeanne Serrin.
Bonjour à toutes et à tous, il est 9h. Au Chili, les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur prochain président. Un premier tour de scrutin alors que les enjeux sécuritaires se sont imposés dans la campagne. En Suède, les maires font de la résistance face aux politiques anti-immigration du gouvernement suédois. Le défi de l'adaptation au changement climatique pour les stations de ski de moyenne montagne. Et puis enfin, la crème des streamers français réunis jusqu'à ce soir sur Twitch pour un grand marathon caritatif. Mais d'abord, on l'a appris tôt ce matin, un Français détenu au Venezuela a été libéré. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron sur le réseau social X. Il s'agit de Camilo Castro, détenu depuis plus de 4 mois dans ce pays d'Amérique du Sud. Les précisions d'Omar Waman.
Ce professeur de yoga de 41 ans avait disparu le 26 juin dernier à un poste frontière qui sépare le Venezuela de la Colombie où il résidait et où il était détenu sans raison officielle par les autorités vénézuéliennes et sans que ses droits consulaires ne soient respectés selon sa famille et des ONG comme Amnesty International. Il s'y était rendu pour renouveler son visa de séjour colombien arrivé à échéance selon ses proches. Camilo Castro est désormais dans l'avion pour Paris. Libre et en sécurité, a annoncé Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la France où il devrait arriver dans les prochaines heures.
Les précisions d'Omar Waman. Il est favorable au libre port d'armes et à la peine de mort. Au Chili, le candidat d'extrême droite enregistre ces derniers jours une percée fulgurante dans les sondages. Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule aujourd'hui dans le pays et si la candidate de la gauche unie par favorite, elle est menacée par le candidat libertarien qui a réussi à imposer ses thèmes de campagne, l'immigration et la sécurité. À Santiago, Naila Derouane.
À quelques pas du palais présidentiel de la Moneda, Rosario confie avoir changé ses habitudes depuis quelques temps.
Je n'ose plus sortir la nuit, car on ne sait pas sur qui on peut tomber au coin de la rue.
Pedro, lui, raconte qu'il s'est fait cambrioler, sa fille volé son téléphone et sa femme a été victime d'une tentative de braquage de sa voiture.
J'ai rempli ma maison de caméras de sécurité, j'ai un très gros chien et j'ai aussi acheté une arme.
Et ils rejettent la faute sur les étrangers.
Ils arrivent ici sans filtre. Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne trouvent pas de travail? Eh bien, ils volent. La migration et la délinquance, c'est lié.
Lucy Adamer, sociologue et analyste politique à l'Université de Santiago du Chili, réfute cette thèse et dénonce cet amalgame.
La conversation qui s'est installée, c'est que le problème, c'est la migration, surtout celle du Venezuela. Et dans le contexte de la présidentielle, c'est impossible de sortir de ces discours, car la sécurité fait gagner beaucoup de votes.
Alors que pourtant, le Chili est l'un des pays les plus sûrs de la région, mais c'est l'apparition de nouvelles pratiques criminelles comme les enlèvements ou de violents assassinats en lien avec le monde du crime organisé qui a généré ce climat de peur. Le candidat d'extrême droite capitalise sur ce sentiment d'insécurité. Les sondages estiment qu'il pourrait se qualifier pour le second tour.
Et les résultats du scrutin seront connus la nuit prochaine. Bientôt la fin des aides sociales automatiques pour les demandeurs d'asile au Royaume-Uni. La ministre de l'Intérieur annonce une série de mesures visant les étrangers. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer est mis sous pression pour freiner l'arrivée des migrants après les manifestations massives de cet été organisées par l'extrême droite. Et c'est à l'inverse, contre les mesures anti-immigration de leur gouvernement, que plusieurs maires suédois se mobilisent partout en Suède. Des élus locaux refusent d'appliquer les mesures du programme d'aide au retour volontaire des immigrés, défendu par la droite et l'extrême droite au pouvoir. Un mouvement inédit qui prend la coalition gouvernementale de court. Notre correspondante en Suède, Ottilia Ferré.
Merci, mais non merci. C'est ainsi que le maire de Jokkmokk, petite ville au nord de la Suède, a catégoriquement décliné l'invitation du gouvernement à une rencontre pour discuter du rapatriement volontaire.
Nous ne voulons chasser personne de notre commune ou de notre pays. Au contraire, nous avons besoin de plus de monde qui vienne s'installer et travailler ici, dans la commune de Jokkmokk. Ce que je vois aujourd'hui en Suède, c'est que les personnes qu'on expulse, ce sont des gens qui travaillent. Tout est désormais axé sur les représailles et les punitions. Plus personne ne parle d'humanisme.
C'est lui, Roland Baumann, qui a, depuis le cercle polaire, pour ainsi dire, lancé le mouvement. Et beaucoup lui ont emboîté le pas jusqu'à l'extrême sud, à Malmö, où le conseiller municipal Seda Tarif est atterré par ce budget de 217,5 millions d'euros alloué au départ volontaire.
On ne peut pas laisser entendre aux gens qu'ils ne sont pas les bienvenus. Tant de ressources sont consacrées au renvoi des immigrés. Elles auraient été bien mieux utilisées pour investir dans le marché du travail. Ce racisme racisme, accentué par une politique d'exclusion étatique, amènera beaucoup de personnes à se demander « Pourquoi devrais-je m'efforcer de contribuer à un pays qui ne veut pas de moi ?»
À Stockholm, Alexander Ojan, l'adjoint au maire, dénonce un dispositif contre-productif.
Le risque, c'est de perdre une main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin. Le gouvernement, incroyablement amateur, manque de connaissances sur le sujet. Ils sont aveuglés par leur idéologie.
Près d'un tiers des communes suédoises ont elles aussi répondu par un « merci, mais non merci ».
Au Brésil, des milliers de militants écologistes et des représentants des peuples autochtones se sont mélangés hier pour défiler dans les rues de Belém où se déroule en ce moment la COP30. Les manifestants entendaient faire pression sur les négociateurs alors que la première semaine de négociations s'achève sans avancée majeure pour lutter contre le réchauffement climatique. Et parmi les conséquences de ce réchauffement, en voici une très concrète en France, dans les stations de ski de moyenne montagne où la neige a quasiment disparu. C'est le cas au Grand Puy, petite station dans les Alpes de Haute-Provence. Les remontées mécaniques ont commencé à être démontées. Un an après la fermeture de la station, la page du ski se tourne. Mais le Grand Puy cherche à se réinventer. Reportage de Mathilde Vinceneux.
Sur le parking du Grand Puy, la carcasse d'un téléski. Le télésiège, lui, est encore debout, mais il sera bientôt démonté.
C'est quand même une catastrophe, quoi.
Denise, propriétaire d'un chalet dans la station.
Parce qu'il y avait quand même de très belles pistes. On va se contenter de faire des raquettes.
La fermeture des remontées mécaniques a été actée par référendum il y a un an. Le déficit du Grand Puy était trop lourd à combler, explique Laurent Pascal, le maire de Seyne-les-Alpes.
Chaque année, on y mettait à peu près 350 000 euros, 13% du budget communal. C'était pas tenable.
En fermant la station, la mairie s'est engagée à investir pour proposer d'autres activités. VTT, trail, Laurent Pascal a des idées.
Du biathlon avec des trottinettes et des carabines laser. Il faut penser le tourisme autrement avec ce réchauffement climatique. Si on ne croit pas à une montagne différente, il n'y a plus d'espoir dans nos vallées.
Croire en l'avenir, c'est le pari de Sandy Bonny. Elle tient le seul restaurant du Grand Puy, le chalet.
66 ans que ma famille est là. Parce qu'on nous fermait les remontées mécaniques, on allait clôturer la porte ? Non.
Alors la restauratrice multiplie les animations, soirées, concerts, création d'un escape game d'extérieur.
On a organisé la balade au lampion aussi, où les gens partent avec leur petit lampion en fin de journée, dans la nuit, dans la forêt.
Une alternative à la descente au flambeau, une inventivité qui paye. Le restaurant a maintenu son chiffre d'affaires malgré la fin du ski.
Et depuis les années 70, plus de 180 stations de ski ont fermé en France. Un point d'étape donné ce matin par Amélie de Montchalin. À ce stade des débat budgétaire, le déficit atteindrait 5% du PIB, prévient la ministre des Comptes publics dans une interview au Parisien. Des prévisions jugées inquiétantes par la ministre alors que le gouvernement s'est fixé l'objectif de ne pas dépasser les 4,7%. Ils approchent les 700 000 euros de dons. Les streamers de l'événement Stream for Humanity, réunis depuis vendredi soir et jusqu'à ce soir à Paris pour un marathon caritatif sur la plateforme Twitch. Squeezie, Amine, Magla, Bagheera, en tout, une trentaine de streamers appellent aux dons en faveur des victimes de la faim en France, mais aussi pour les civils victimes des guerres en Palestine, au Soudan ou encore en République démocratique du Congo. Des conflits souvent oubliés, mais pour lesquels ces streamers se mobilisent depuis longtemps. Fawzi Trita.
Par essence, le public de Twitch est prédisposé à s'intéresser à ces conflits. C'est ce qu'a constaté Nathan Ferré, maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon. Il a rédigé une thèse sur Twitch.
C'est une plateforme qui va rassembler des jeunes qui sont d'abord relativement hautement diplômés, mais qui sont également précaires d'un autre côté, et aussi beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires et une orientation politique à gauche. Donc il y a un terreau social favorable qui les prédispose à s'investir pour des causes humanitaires et à reconnaître des formes d'injustice.
Un public jeune qui apprécie les créateurs de contenu qui portent courageusement ces causes. Les internautes qui suivent ces streamers n'ont pas de doute sur leur sincérité car leur parcours de vie parle pour eux.
Il y a beaucoup de streamers qui viennent des quartiers populaires, d'enfants de l'immigration par exemple, qui mettent en avant cette identité des quartiers populaires qui porte la trace de leur position initiale de dominé. Et on sait qu'il y a une forme d'homologie entre le fait d'être dominé dans l'espace social français et de reconnaître des expériences de domination ailleurs et de concevoir l'espace social qui soit français ou international comme un espace de lutte avec des injustices, etc. C'est des trajectoires sociales qui prédisposent aussi à l'engagement humanitaire pour ces causes-là.
Pour autant, tous les créateurs présents à Stream for Humanity ne sont pas des lanceurs d'alerte sur les conflits oubliés. Le slogan de l'événement, c'est « Récolter des fonds pour lutter contre la faim dans le monde », une cause consensuelle qui permet à beaucoup de créateurs de s'y associer sans risque de cliver leur audience.
Et l'année dernière, l'événement avait permis de récolter plus de 3 millions d'euros au profit de Médecins sans frontières. La météo, 4 départements sont toujours placés en vigilance orange, pluie et inondations ce matin. Il s'agit de l'Ardèche, des Alpes-Maritimes, de l'Isère et de la Drôme. Côté température, il fait 10 degrés à Lille, 15 à Montélimar et jusqu'à 20 degrés à Ajaccio.